Je veux que ce soit le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Et si le gémissement me convient, alors on signe. Et tu fais ton film.
Et je veux un Oscar pour ce gémissement.
Ah, ils vont se multiplier.
Chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas ton bruit. T'as pas le d'or.
Uno, all, two, vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Uno, all, two, vous. Now, go away now.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
C'est un lecteur, un rassembleur de talents, c'est aussi un vendeur et un gestionnaire. Mais c'est surtout le premier spectateur du film, le producteur de cinéma sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Il y a autant de façons de produire qu'il y a de producteurs. Nous, nous en avons choisi deux. Bonjour Christophe Rossignon.
Bonjour.
À la tête de Nord-Ouest Film, producteur depuis 25 ans et une bonne quarantaine de longs métrages à votre actif, signé Kassovitz, Trananung, Lioret ou Carion, entre autres. Avec votre associé Pierre Guyard, vous produisez ce beau film Amanda de Michael Hirst. Il sort mercredi prochain. Votre voisin n'a pas votre expérience, certes, mais son chemin est déjà passionnant. Bonjour Nadim Chekroa.
Bonjour.
À votre jeune palmarès, La Désintégration, Fatima, La Belle et la Meute, Amine, et depuis mercredi sur les écrans, Mon cher enfant de Mohamed Benatia. Deux expériences pour raconter ce métier d'entrepreneur sur un produit totalement irrationnel, le cinéma. Enfin, en face de Mon cher enfant cette semaine, Les Chatouilles, Samy, une jeunesse en Laponie, Carmen et Lola, Chien de garde et Célébration, c'est parti.
Hé, hey, Vince ! Wow ! Qu'est-ce qu'il fout, celui-là ?
Quoi ?
Quoi, quoi ? Je t'arracherai les poils du cul de dire bonjour !
Vas-y, Saïd, qu'est-ce que tu veux, là ?
Vas-y, dis à ton frère de descendre !
Quoi faire ?
Dis-lui de descendre ! Mais dis-lui de descendre!
Quoi
faire? Eh, oh, tu t'es cru un sketch à la télé ou quoi là?
Tu t'es pris. Hein? Pendant 7 minutes, on n'avait pas arrêté de gueuler, qu'est-ce qui se passe là?
Eh, tu m'as vu cette nuit dans la rue? Non, bon alors, du coup, tu me parles!
Arrête, enfuis-toi là! Tu joues le petit fille! Gna 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 gna! Imbécile! Tu dis que t'es pas.
Bon alors, tu l'appelles ou tu dors toi? Mais vas-y, arrache-toi, toi, t'es encore là, vas-y, ah, qu'est-ce que tu fous?
C'est lui qui dort, moi je le réveille pas, à chaque fois je me fais engueuler, t'as qu'à essayer, toi.
J'espère que les filles vont vous mettre, ils vont nous branler.
La haine de Mathieu Kassovitz, votre premier poulain avec Trananung, Christophe Rossignon, deux réalisateurs dont vous avez produit les premiers courts-métrages. C'est ça aussi le métier de producteur, c'est repérer les talents à l'origine.
Oui, en France, on fait beaucoup de courts-métrages. Hein. Oui. C'est une particularité. Il y a peu de pays qui en font autant. Et donc, oui, c'est un vivier invraisemblable. Hein.
Qu'est-ce que vous avez repéré chez eux tout de suite? Chez Kassovitz, par exemple.
Oh, Mathieu, la première fois que je l'ai vu, il était habillé comme dans Métis. Il était coursier à vélo pour gagner sa vie. Ouais. Il avait la tenue avec le vélo qu'on a utilisé après dans Métis.
Mais à part ça, vous sentiez un cinéaste chez lui ou pas?
Ben, oui, il avait fait...
Par le courtier.
Il avait fait un court-métrage qui s'appelle Fierro le Pou. Déjà, rien que le titre, fabuleux. Ouais. Et il avait plus d'argent pour le terminer. Il m'a montré les rushs. Moi, je débutais comme lui. Et puis, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose derrière. D'abord, lui, acteur. Hein, ouais. Il était acteur dans ce film, dans ce premier court-métrage. Et puis, je sais pas, dans sa caméra, il avait fait des plans déjà incroyables, je trouvais. Et puis, voilà. Et puis, il y a le courant qui est passé entre lui et moi. On le dit pas assez, peut-être, qu'un producteur, c'est pas uniquement quelqu'un qui repère un scénario ou un talent. Il y a aussi beaucoup d'humains. Beaucoup de... Et la relation avec Mathieu, elle est née immédiatement.
Et pourtant, votre jeunesse dans le Nord et dans une famille d'agriculteurs ne vous conduisait pas naturellement au cinéma.
Non, il n'y avait pas de salle de cinéma dans mon village.
Votre cinéphilie est arrivée à quel âge, en fait?
Quand j'ai fait mon service militaire à Charleville-Mézières, c'est là que j'ai eu vraiment accès, puisque j'étais sous-officier, et je sortais tous les soirs, j'étais libre, et donc j'allais au cinéma.
Vous avez commencé par quel cinéma, par quel
Je crois que le premier film que je vois, c'est Apocalypse Now. Ouais, la première sortie que je fais au cinéma de Charleville-Mézières, c'est Apocalypse Now.
Après, vous êtes réparateur de télé chez Darty, d'ailleurs.
Vous êtes sûr qu'il faut dire ça? Alors, c'était après, pas chez Darty.
Un indépendant. Et après, vous prenez vos études, vous faites une école d'ingénieur. À la fin de cette école, vous faites un mémoire que vous envoyez à l'AZENEC, et c'est comme ça que tout commence.
Exact.
Et c'est-à-dire qu'ils vous font confiance tout de suite.
Bah oui, moi j'allais créer ma société de production de courts-métrages, et puis Alain Roca et Adeline Nacallier me disent, bah nous on vient du court-métrage, on en a produit beaucoup, il y avait Christian Vincent, Éric Rochant et plein d'autres talents, et ils venaient de faire Un monde sans pitié, le fameux film, le premier film d'Éric Rochant.
Et vous a beaucoup frappé.
Ah oui, oui, ouais. Moi j'avais adoré ce film.
Et comme captation de l'époque, comme...
Ah oui, et puis le ton, ouais. Les acteurs, Yvan Attal, Hippolyte Gérardot, je sais pas, il y a tout dans ce film. C'est un peu, il y a un avant et un après, Un monde sans pitié, hein, pour ceux qui veulent bien se pencher comme des historiens du cinéma. Et donc, Roca, c'est cette folie pour moi, maintenant avec le recul, il me dit, le fais pas dans ton coin, t'as qu'à le faire avec nous. Il dit, tu crées une boîte, on est actionnaire, tu resteras libre. Et il me dit, moi je suis pas fils d'agriculteur, mais j'ai bien compris que les paysans, faut pas les emmerder. Et donc, tu feras ce que tu veux, mais nous, comme ça, le court-métrage ne s'arrête pas. C'est-à-dire que le vivier que représente le court-métrage dans une boîte comme la nôtre qui est naissante va continuer avec toi. Et les premiers réalisateurs que je rencontre, c'est Kassovitz et Trananou.
Qu'est-ce qui vous séduisait dans ce métier? C'est le gros cigare?
Faire comme mon père, agriculteur, être un homme libre.
Ouais.
Et producteur, c'est...
Le gros cigare, non, parce que après Laurent, vous allez me sortir la blonde sur un genou et la brune sur l'autre genou. Vous n'allez pas oser faire ça quand même.
Surtout en ce moment.
Surtout en ce moment, oui, effectivement.
Non, mais concrètement, qu'est-ce qui vous séduisait?
Concrètement, le cinéma, j'adorais ça. J'y allais beaucoup, j'étais cinéphile.
Vous auriez pu être réalisateur?
Non, je n'ai pas envie de ça. Non,
et
non,
acteur,
parce que,
vous l'êtes.
Parce que en fait, j'ai envie depuis très longtemps d'écrire ma vie moi-même pour moi-même. Ça paraît prétentieux, ambitieux, égoïste, ou je ne sais pas, mais peu importe, je veux être indépendant. Donc il y a ça, il y a derrière quand même le métier d'entrepreneur, il y a le cinéma, il y a les relations humaines, et le cinéma me fait rêver.
Et vous, voilà. Nadim, votre jeunesse se passe en Tunisie, des études supérieures en France, diplômé d'HEC. Votre parcours est beaucoup plus industriel, entre guillemets. TF1, TPS, une expérience chez Mandarin Film et finalement producteur. D'où vient cette envie de cinéma? Elle a démarré en Tunisie?
Oui, elle a démarré en Tunisie. Moi, j'ai découvert le cinéma à travers des VHS que mon père rapportait de voyage. Très peu de cinéma dans les salles, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais le film qui m'a... Je crois que c'est le premier film que je voyais en salle avec mes parents qui m'a marqué, c'était La forêt d'émeraude, que j'avais adoré, en même temps ça m'avait beaucoup énervé, parce que j'étais jeune, je crois que j'avais une dizaine d'années, et la fin un peu ouverte du film m'avait énervé, parce que ça répondait pas vraiment, ça fermait pas le film, et en même temps ça m'est resté, et je l'ai jamais revu, mais c'est vraiment un film qui m'a marqué. Et après, oui, des VHS, alors plutôt de films... comment on peut dire, populaire, c'était Ben Hur, Docteur Jivago, tout ça que je revoyais en boucle. Et ensuite...
Et vous ne produisez pas Ben Hur maintenant, ni Docteur Jivago?
Non.
Je voulais vous dire, vous avez des vrais auteurs, mais ce sont des budgets beaucoup plus raisonnables.
Oui, oui, parce que je fais avec les moyens du bord. C'est-à-dire que c'est vraiment un métier que j'ai découvert... comme ça, petit à petit, quand je me suis dit que je voulais devenir producteur, c'est parce que j'adorais le cinéma, ma cinéphilie s'est poursuivie, et en gros, plus rien d'autre ne m'intéressait. Je travaillais mon stage de fin d'études, c'était dans une banque, et je me disais, je peux pas faire ça, quoi, je vais mourir si je fais ça comme métier. Et donc, il y avait rien d'autre qui m'intéressait que le cinéma, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je me sentais pas capable d'être réalisateur, et donc je me suis dit, peut-être je peux produire, sans savoir ce que ça veut dire, mais peut-être je peux aider des réalisateurs à émerger, ça serait vraiment super. Je me disais, je serais jamais David Lynch, mais si jamais je produis un jour un David Lynch, c'est bon, j'aurais réussi ma vie.
Mais vous avez un modèle de producteur en tête?
À côté de moi, il y a un producteur. En plus, je vous l'avais dit avant même de le rencontrer, c'est vrai que j'admire beaucoup ton parcours, on se connaissait pas, parce que c'est des films très forts et variés. Je suis passé par une entreprise de production dont vous avez parlé, qui sont Mandarin, les frères Altmaier, et qui effectivement...
Qui sont des producteurs formidables.
Qui sont des producteurs formidables. Aussi par le côté éclectique de ce qu'ils font. Parce que je me suis rendu compte qu'en France, on mettait facilement, en tout cas peut-être dans notre métier, les gens dans des cases. Les producteurs de télé font pas de cinéma. Enfin, ils essayent, mais on est très vite catégorisés dans des cases, dans des genres de films qu'on fait. Christophe, les frères Altmaier et d'autres font des choses variées, des grosses comédies populaires et en même temps des films plus auteurs.
Être producteur, c'est aussi être fidèle, notamment avec Philippe Faucon, avec Amine et Fatima, mais surtout en 2012, la désintégration dans la banlieue lilloise, Ali, Nasser et Hamza, trois garçons de 20 ans un peu perdus, sans travail, font la connaissance de Jamel, charismatique, manipulateur, qui va profiter de leur déception, leur faille, leur révolte pour commettre l'irréparable.
Écoute, moi aussi, les discriminations, j'ai connu. Sauf qu'avant, c'était plus direct. Maintenant, ils y mettent plus de forme, c'est plus sournois, tu vois. Mais ils sauront toujours comment faire pour t'indiquer ta place, qui sera toujours la même de toute façon. Ça sera jamais dit, ni clairement, ni ouvertement, mais le résultat, il sera toujours le même.
C'est pour ça que j'ai la rage. Parce que j'ai suivi cette formation pour rien, alors que ma mère, elle se crève à faire des ménages pour ça.
Et voilà le résultat de son sacrifice. Zéro boulot, zéro stage. Crois-moi, t'as pas fini de sentir le racisme dans ton dos. L'hypocrisie derrière les sourires, la condescendance. T'auras beau te casser la tête, il y aura jamais rien pour toi. À part si tu commences à faire le rebeu qui parle de citoyenneté et de république, qui blague blanc, beurre et tout ça, là. Liberté, égalité, fraternité, tout le tralala, là. Ça, c'est du vent. Ce qu'il faut lire, c'est liberté, égalité, fraternité entre blancs et zéro musulmans.
Christophe Rossignon, qu'est-ce qu'on apprend avec le temps? Parce que vous avez produit une quarantaine de films. Chaque film est une nouvelle expérience?
Ah oui, oui, chaque film est une nouvelle expérience. Il y a peu de choses d'ailleurs qu'on arrive à reproduire sur les films, tellement c'est différent.
Votre collègue Charles Gassot disait qu'un film, c'est un prototype.
Oui, oui, c'est vrai. C'est vraiment un prototype. Peut-être que la télévision rationalise un peu plus les choses et que les choses se semblent plus calibrées. Et encore, il y a de très belles séries, il y a de très belles choses à la télé. Mais donc non, on grandit au fur et à mesure, on apprend peut-être son métier au fur et à mesure. On apprend aussi la gestion des relations humaines au fur et à mesure. Et à chaque fois, il y a des nouveautés. Moi, le cinéma, mon métier m'a emmené partout dans le monde, m'a emmené à rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés dans d'autres métiers. Voilà, c'est, il n'y a pas de lassitude.
C'est un métier à haut risque parfois, vous en avez fait l'expérience. Au début, de Une hirondelle a fait le printemps, c'était pas du tout gagné, ce film.
Non, 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 et le film a été un beau succès, il a fait notre printemps à Christian Carian et moi.
Vous avez menti aux banques même.
Oui, il faut mentir parfois aux banques, il faut mentir au système.
Ouais.
Il faut pas se gêner de ça, surtout quand on a une forte conviction qu'on tient un film, qu'on tient un propos, que peut-être on va espérer bousculer, réveiller les choses. Bien sûr qu'on a espéré pouvoir changer les lois avec Welcome, quand on propose au Parlement d'utiliser le film pour changer la loi qui interdit les gens d'aider les migrants, quand on n'est pas dans une association. Alors on n'y est pas vraiment arrivé, mais au moins on a essayé. Après, il y a les échecs, faut en parler. Même les producteurs ont parfois du mal à encaisser les échecs, pas uniquement pour des raisons d'argent, mais parce que on s'est investi dans un film. On y a mis tout notre âme et puis finalement.
C'est quoi votre plus
gros échec? Mes plus grosses déceptions, ouais. C'est Éternité de Tran Anh Hung, qui est un film que j'ai
aimé. Très cher.
Qui a coûté très cher. Moi, j'ai énormément aimé ce film et il n'a pas du tout marché. Il y a L'Ordre et la Morale de Kassovitz. Ça a été tellement compliqué de faire ce film qu'on n'a pas pu faire, en Nouvelle-Calédonie, qu'on a fait ailleurs. Ça a pris tellement de temps, d'énergie. Et puis voilà, les gens. S'en foutait. C'est pas que le film n'est pas là. La presse était plutôt positive sur le film. C'est le public n'avait pas envie qu'on lui raconte cette histoire à ce moment-là.
Parfois, on peut arriver à des situations dramatiques, comme ça a été le cas pour le producteur Humbert Balzan, qui a été représenté dans un film génial qui s'appelle Le Père de mes enfants, de Mia Hansenlove. Oui. Je vous propose d'écouter un extrait justement sur les difficultés de ce métier et surtout de produire un auteur.
Il y a un gros dépassement sur le film suédois.
Ouais, c'est vrai. On a eu des dépenses imprévues à la décoration. Mais quand tu travailles avec un cinéaste exigeant, c'est le risque que tu cours.
Enfin, là, le problème, c'est que tu m'as envoyé une ribambelle de chèques cette semaine. Et pour un montant colossal, mon pote. Tu comptes m'en parler quand?
Écoute, Stieg Janson est un grand artiste. C'est un génie. Il a une vision, il faut lui faire confiance.
C'est quand même pas une évidence commerciale, ton cinéaste.
Hein. Eh ben, moi, je pense que son heure est venue. Il vient d'avoir une rétrospective à la Cinémathèque, et on parle que de lui dans les journaux.
Soit, mais pour l'instant, aucun de ses films n'a rapporté un copec.
Oui, mais tu vas voir, ça va décoller, parce que là, c'est différent. C'est pas un film abstrait comme les précédents, c'est beaucoup plus ouvert. C'est un film romanesque, une grande fresque, une saga.
J'ai montré les premières images à Canal, ils sont éblouis. C'est pas encore chiffré, mais ils vont mettre une rallonge substantielle.
Grégoire, c'est pas seulement le film suédois. On est à 4 millions de risques sur ta boîte. Et encore, il y a tout ce que je sais pas.
Mais vous avez mon catalogue, en garantie.
Ton catalogue, il vaut pas plus d'un million. Et encore, je suis généreux.
Nadim Chekroua, vous disiez, c'est tellement juste, c'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe.
Bah, c'est, oui, c'est très proche. C'est très proche.
C'est vous qui avez écrit les dialogues.
J'aurais pu.
Ouais.
J'aurais pu.
C'est-à-dire que la course au financement est insensée, non?
C'est vrai que c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué. En même temps, on me dit que c'était plus compliqué avant. Moi, j'ai pas connu cette espèce d'âge d'or où c'était facile.
Ça commence avec le CNC, on l'a ou on l'a pas, ensuite on va voir Canal, ensuite on va voir les autres chaînes, c'est ça, et ensuite Sofica.
Ça dépend.
Non, faut commencer par le distributeur, hein. Ouais. On fait des films pour le cinéma, donc pour la salle. Alors Canal, et la télévision, ça vient après, hein.
Le distributeur, parce qu'il est censé mettre de l'argent dans,
oui,
dans le film.
Oui, il est censé mettre de l'argent, mais... il est censé aussi s'engager sur la publicité, l'argent qu'il va dépenser pour faire la promotion du film. Et ça, c'est de plus en plus cher. Il n'y a plus rien de gratuit dans les salles, on nous fait tout payer, on ne peut plus faire de promotion à part avec les médias, mais voilà, ça ne suffit pas.
Le plus gros financeur, c'est la télé ?
Le plus gros financeur ?
Sur un budget d'un film ?
Non, il y a beaucoup de films qui se font sans la télé en clair, sans Canal+, sans OCS, énormément, même plus de la moitié. Donc non, c'est pas le premier financeur, ce sont les distributeurs, c'est d'autres circuits de financement, et c'est le crédit d'impôt, puisque la France est dotée d'un crédit d'impôt, comme beaucoup de pays, dans les autres pays on appelle ça tax shelter, simplement des investissements qui sont faits par l'État pour maintenir l'emploi, et provoquer des dépenses de TVA, de charges sociales, dans le pays et non pas à l'extérieur du pays.
Les régions aussi financent beaucoup.
Les régions.
Nadim Fekroua, parfois on peut sauver un film qui ne se serait pas fait. Je pense au cas de Benda Bilili.
Oui.
Ou grâce à vous, ils ont obtenu l'argent pour la post-production.
C'était une histoire, effectivement.
C'est une histoire folle.
C'est une histoire assez dingue.
Ouais. On rappelle le propos, 2 minutes du film.
Ok.
Sur des musiciens handicapés.
Ah, je le fais, oui. Ouais. Alors, c'est l'histoire de musiciens handicapés à Kinshasa, SDF.
Ouais.
C'est sûr que c'était donc finalement le premier film que j'ai produit avec mon associé de l'époque. C'est presque une erreur de jeunesse, c'est-à-dire que quand on vient nous vendre un film sur des noirs handicapés SDF, normalement on devrait partir en courant. Il se trouve que j'avais rencontré à ce moment-là un des réalisateurs du film, Renaud, qui m'a raconté l'histoire, qui m'a vachement touché. Et il m'a raconté l'histoire d'un enfant qui, à 4 ans, c'était un enfant des rues, à 4 ans, vivait seul dans la rue. Mon fils avait 4 ans à l'époque. Et il avait trouvé une boîte de conserve avec laquelle il a créé un instrument de musique. Moi, je me disais, si je laisse mon enfant dans la rue 5 minutes, il est foutu, quoi. Donc ça m'avait vachement touché. Et du coup, on a décidé de produire le film. À l'époque, on venait de créer la société. Enfin, ça faisait 3-4 ans. Et on faisait des missions de conseil pour gagner de l'argent. Et on avait constitué une cagnotte développement, on appelait ça. C'est-à-dire, on mettait de l'argent de côté pour investir dans des films. Et on a mis tout ce qu'on avait dans ce film-là. Ce qui est, je pense, une folie quand on y pense. Mais finalement, ça a été mon plus gros succès à ce jour.
275 000 entrées à l'arrivée.
Même
incroyable.
Même plus. Et puis, le film a fait l'ouverture de la quinzaine à Cannes. Et puis, c'est une aventure incroyable. La rencontre avec ces gens du staff. Donc voilà, ça c'est des choses, effectivement, comme disait Christophe, inattendues, que j'aurais jamais pu faire si je faisais pas ce métier.
Et parfois on accueille d'autres producteurs, Christophe Rousignon, comme dans votre entreprise, Pierre Guyard, c'est lui qui vous a apporté le projet de Amanda.
Oui, Pierre Guyard et Philippe Bouffard, on est trois à s'associer, avec une productrice télé aussi. On s'y met, on souhaite produire de la série, parce que c'est une forme d'expression, il y a des choses qu'on peut dire avec la longueur de la série qu'on ne dit pas sur un film d'1h30 ou de 2h. Et on fait aussi du documentaire, il y a donc une productrice documentaire, Sylvie Randonnex. Et oui, voilà, Pierre qui a produit pour Nord-Ouest Les Combattants, qui est un film qu'on adore et qu'on a produit d'autres. Il avait produit le troisième film donc de Michael Herz, qui est le réalisateur d'Amanda. Pierre a produit Félix Moati, Victor Samakari à Miami. Donc voilà.
Mais vous avez besoin de l'aval des trois pour produire.
Non, Non. On est très autonome. Chacun défend sa ligne. Et c'est impossible d'être aux ordres quand on fait le métier de producteur. On ne peut pas être producteur salarié. Il faut décider par soi-même, s'engager soi-même. Donc on se partage la même structure.
Amanda Michael Hirst, un jeune garçon de 24 ans. David, c'est Vincent Lacoste, l'incroyable. Génial. Vincent Lacoste.
Absolument.
Dont la vie va basculer à la mort de sa sœur et qui va devoir prendre en charge sa nièce de 7 ans. Et il va craquer un jour ou l'autre. On écoute un extrait.
J'ai peur, Axel. Je sais pas ce qu'on va devenir là. Je sais pas, j'ai tenu jusqu'à l'enterrement, mais là, je t'avoue que. Là, je sais plus, je sais pas ce qu'on va devenir tous les deux, je sais pas ce que je vais faire d'elle. J'ai tellement peur, là, je suis pas prêt pour vivre avec une enfant comme ça, je sais pas quoi lui faire à manger, j'oublie les devoirs, c'est pas mon enfant, Axel, je sais pas ce que je vais faire. Elle a personne, cette gamine. En plus, on n'a plus personne.
Raja, t'as parlé de la maison des enfants?
Ouais, j'ai pris rendez-vous avec le directeur.
Ça peut être une bonne solution au début. Hein. Autant que tu retombes sur tes pieds.
Amanda, ce qui est beau, Christophe Rossignol, c'est un mélo assumé, mais avec retenue.
Oui, mais c'est un mélo assumé. Hein. Moi, quand Pierre Guyard m'a fait lire le scénario, j'ai pleuré à chaudes larmes. Et je vous raconte pas quand j'ai vu le film au début du montage. C'est un film d'une immense émotion, d'une grande douceur. Alors, je veux pas qu'on croie que je suis en train de faire l'article là du film, hein, mais moi, je suis bouleversé par ce film.
Nadim Fekroy, vous l'avez vu?
Tout à fait. Pareil, j'étais complètement cueilli, je m'attendais à rien, je savais pas de quoi parler le film. J'étais à la fois surpris, j'ai pleuré un peu aussi. Non, je trouve le film hyper subtil, vraiment très très touchant. Vincent Lacoste est juste dingue.
C'est quoi un film bien produit, en fait, comme celui-là, Amanda? Est-ce qu'on peut dire qu'il est bien produit?
C'est difficile. Derrière, il y a l'ego, les couleurs, hein, bien produit pour certains.
Est-ce que c'est un équilibre entre le financement qu'il y a eu et le résultat à l'écran, c'est quoi?
Oui, bien sûr, c'est un équilibre entre le retour qu'on va avoir des uns et des autres, de la presse. Alors parfois, la presse s'emballe et puis le public suit pas, et parfois l'inverse. Il y a aussi pas que le territoire français, bien produit parce que le film va faire le tour du monde. Et que, aux États-Unis, au Japon, en Chine, le film aura un vrai succès. Donc,
ça, c'est une dimension très importante, les ventes à l'étranger pour le cinéma français.
Oui, parce que le cinéma français
essentiel.
S'exporte.
Non, oui. Il faut dire qu'il y a certains films qui ne marchent pas en France, mais qui font de belles carrières à l'étranger.
Exactement. Et puis l'inverse aussi.
Et l'inversement, bien sûr. Oui.
Le cinéma français a cette chance et qui rayonne un peu à l'étranger, effectivement.
Est-ce que fonder un casting sur un enfant, c'est pas un vrai souci pour un producteur? C'est une vraie prise de risque.
Si, mais il faut prendre ses risques.
elle s'appelle Isor Multrier.
Pardon, il faut la citer parce qu'elle est aussi
fabuleuse. Elle est d'accord. C'est pas moi qui fais l'article. Elle est fabuleuse,
oui.
Et avec Vincent bien sûr. Mais
couple de cinéma.
On nous reproche parfois, et les gens ont raison de nous reprocher ça, qu'on prend toujours les mêmes acteurs et qu'on voit toujours les mêmes en promo. Quand bien même on n'ait pas vu les films, on a l'impression qu'on les a vus 10 fois dans l'année. Eh bien non, on est nombreux à vouloir sortir de ça. Et le film qu'a produit Nadim, alors là pour le coup, ça fait du bien de voir des acteurs qu'on connaît pas. Donc, mais après c'est pas toujours évident. Parce que le financement, les marchés nous poussent à aller vers les mêmes.
Justement, on y vient à Mon cher enfant de Mohamed Benatia. Après Eddie, c'est donc son deuxième film, c'est
tout
bien ça?
Deuxième long métrage. Ouais.
Riyad s'apprête à prendre sa retraite de chariste au port de Tunis avec Nazli. Ils fondent un couple uni autour de leur fils unique Sami, qui s'apprête à passer le bac et pour lequel ils espèrent un avenir, un travail, une famille, jusqu'au jour où Samy disparaît. On écoute la bande-annonce.
Elle est chinoise, elle est sortie du Canada. Elle
est
chinoise. Elle est chinoise.
Elle
est chinoise. Elle
est chinoise. Elle est chinoise. Elle est chinoise. Elle est chinoise.
Versteck.
تو حمل كافي دايا سامي مش نروح بيه
ولدي غادي ما نش بتسال بعد الكل
Nadine, non, on ne comprend pas tout ce qu'il dit, mais c'était beau, c'est une belle langue, donc il faut l'entendre. Et le film n'est pas doublé.
Il y a une version doublée, mais qu'on a faite pour la télé, mais moi je préfère les films en VO. Donc là, par exemple, il lui demande s'il veut manger une poire, l'autre dit non, j'aime pas, je préfère les pastèques. C'est une comédie, donc comme vous avez pu... Non, je dis n'importe quoi.
ce qui intéresse le réalisateur, ce ne sont pas les raisons qui ont poussé le fils au départ, mais plutôt le point de vue de ceux qui restent. Et ça, c'est très original.
Parce que c'est très original. Oui. En tout cas, on n'a pas l'habitude de voir les choses de ce point de vue-là. La question de la parentalité est une question importante. Le film Amanda parle un peu de ça aussi. C'est vrai que c'est pas un film qui cherche à expliquer pourquoi les jeunes partent.
Ni à accuser la pauvreté
non,
ou
l'endoctrinement religieux. La désintégration, par exemple, traiter vraiment de ce sujet. Comment devenir, comment basculer dans l'extrémisme. Mais le film... Tout le film parle de ça, et d'autres films ont parlé de ça. Donc je pense que si on voulait aborder cette question, on ne pouvait pas le traiter comme un sujet, comme un des sujets du film. C'est soit la question du film, parce que ça demande quand même un petit peu de temps pour...
Si je peux me permettre, Nadim, moi je trouve que tu as produit un film qui est extrêmement humain. Je me suis identifié dans ce film, mais à un point, à la place de ses parents, le père, ce qu'il ressent. Y a dans ce film, la force, c'est qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières, il n'y a aucune différence culturelle. C'est nous les humains, quoi. Le désarroi de ses parents, leur fils qui part. J'ai envie de dire, quoi, là. Ceux qui nous écoutent, ce sont des auditeurs de France Inter qui écoutent une émission de cinéma. Réfléchissez pas, allez-y, allez le voir. Voilà, vous êtes cinéphile, vous grattez pas la tête, allez voir le film.
Vous avez besoin d'identification tous les deux. Hein. Tous les deux, vous parliez de votre enfant de 4 ans. Là, vous pensez en père en voyant ça. Vous avez besoin de vous identifier à vos sujets.
Moi, en tout cas, j'ai besoin de ressentir des choses. C'est-à-dire que j'intellectualise pas beaucoup, enfin si, forcément un peu, mais j'ai besoin de ressentir des choses, de l'émotion, de la réflexion, du rire, mais je pense qu'on peut pas passer 3 ans sur un film et se battre et affronter tous les obstacles si on n'a pas quelque chose de un peu de viscéral, quoi, quelque chose de vraiment fort avec le sujet, avec le film.
Vous vous rapprochez de la Tunisie avec vos productions en général.
Oui, c'est vrai. Quand je suis arrivé en France, c'était donc pour faire des études. Après, j'ai découvert le métier par différentes professions et j'ai commencé à faire des films français, on va dire. Mais j'ai toujours voulu rebosser avec la Tunisie. Et en plus, ma cinéphilie, au départ, s'est faite avec des films tunisiens. Il y a eu un âge d'or de films tunisiens dans les années 90. Mmh. Puis, ça a été un peu la sécheresse. Et puis, pendant ce temps-là, j'ai essayé de nouer des contacts avec la Tunisie, toujours pour essayer de refaire du cinéma. Et puis ça a pris là récemment parce qu'il y a eu une nouvelle génération de réalisateurs, de producteurs qui ont émergé et qui ont des choses formidables à raconter. Et je dois dire que parfois, je trouve qu'en France, on n'a plus grand-chose à dire. Bon, je vais pas généraliser, mais en tout cas, à l'étranger, et ça c'était quelque chose qui apporte beaucoup d'énergie, on rencontre des gens qui ont pas de moyens et qui ont des choses à raconter, une envie de cinéma, et ça donne envie de les accompagner aussi.
Christophe Rossignol, avec tous vos thèmes et vos films, on a encore des choses à raconter en France.
Oui, je pense. Je suis pas tout à fait d'accord avec Nadim.
Ah, c'est bien qu'il y ait un peu de débat.
Amanda, on est la preuve, d'ailleurs.
Oui.
Alors, on fait 230 films par an.
C'est
voilà.
C'est
cette quantité. Et encore, les Américains font 500, 600 films de cinéma par an, et on en voit ici 200, pas plus. Donc, malheureusement, oui, il faut cette quantité. C'est une sorte de pyramide. Si on veut le sommet de la pyramide, il faut la base. Ça n'est pas un monolithe. On ne pourrait pas faire 100 bons films en se concentrant sur 100 films. Une cinématographie qui existe, qui génère des talents. Si vous avez un jeune de 18 ans qui dit à ses parents, je veux faire du cinéma, je veux travailler dans le cinéma, je veux être acteur, je veux être actrice, ben, il faut qu'il y ait du volume, il faut qu'il y ait du travail, il faut qu'on puisse en vivre, les techniciens, les talents, les scénaristes, on manque de scénaristes pour la télévision, pour les séries. Ben oui, mais s'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de talent.
Dites donc, Christophe Rossignol, une dernière question. Il y a extrêmement peu de femmes dans votre filmographie en réalisatrice.
Oui, je sais, Christine.
Mais oui. Vous voulez un joker?
Grandez-moi.
Non, il y en a que, j'ai posé que deux sur vos 40 films de vous.
Alors, il y a beaucoup d'actrices, il y a beaucoup
non,
de.
Mais certes.
Oui, certes. Mais oui, mais, mea culpa.
Ah, vous n'avez pas de réponse à ça?
Non, j'ai pas de réponse parce que j'ai pas réfléchi, parce que...
Vous n'avez pas de volonté de faire que les films...
J'y ai pas réfléchi, je me suis laissé porter par des envies.
Pardon?
J'allais dire, c'est pas quelque chose qui se décide, c'est des rencontres.
Je pense que c'est des projets qu'on reçoit aussi. Vous recevez des projets de réalisatrices.
Oui, mais les projets n'ont pas été triés, hommes, femmes, origine,
terrien,
martien, parce qu'on reçoit des projets de la planète Mars. Vous l'avez pas cité, ça, que j'ai pas encore produit
de
martien.
Très mauvaise façon de vous expliquer. Mais très beau film que votre maison de production produit qui s'appelle Amanda. Vous restez avec nous. Et pareil pour Mon cher enfant de Mohamed Benatia. On se retrouve après Cat Power. C'est sorti, spéciale dédicace à vous, Christophe Rossignon, une jeune réalisatrice québécoise très prometteuse qui s'appelle Sophie Dupuis. D'ailleurs, son film est sur la playlist des Oscars. Chien de garde, donc, son film raconte l'histoire de deux frères dont l'un le plus jeune, impulsif et très instable, jeune collecteur de dettes pour leur oncle, un petit malfrat dangereux, vivent dans le même appartement que leur mère, alcoolique, jamais repentie. Une spirale dont on voudrait se sortir, un film tendu de bout en bout, une petite tragédie extrêmement bien rythmée, montée et surtout dominée par un jeune comédien étonnant. Il s'appelle Théodore Pellerin, nous avons rencontré Sophie Dupuis de passage à Paris.
Sais-tu quoi? Je le sais même à qui je vais demander. Tu le connais? Tu connais bien, mais... C'est un petit indice pour la fin. Ça commence par 20.
Non?
Okay. Oh, oui. Ton frère, lui, il a les couilles pour faire.
OK, attends,
quoi?
Je vais repenser, c'est bon, là?
Oh, tu veux repenser?
Oui, je vais repenser.
Tu m'as envoyé un mail dans 3 mois, j'ai plus le temps pour le repensage, JB.
Sinon, donne pas ça à mon frère, OK?
Qui d'autre?
On est obligé de faire ça, tu sais?
Je voulais faire un film, en fait, qui bouge, un film où mes personnages sont dans l'urgence. Je voulais qu'on se sente opprimé, tu sais, que ça soit... Là, on parle de vie ou de mort, en fait, là, dans Chien de garde. Il y a des gens qui sont en danger de vie ou de mort. Donc, oui, pour moi, c'était, j'avais pas le choix de les placer dans un contexte extrême, oui.
J'ai lu quelque part que vous aimez bien les personnages indomptables.
Mm-hmm. Non, oui, c'est vrai. Puis, c'est quelque chose qui va revenir dans mes prochains films. Mais je voulais un personnage imprévisible. Je voulais que ça soit explosif, que ça soit très dynamique et... Pourtant, je recherche pas ça dans la vraie vie, mais vraiment, dans mon cinéma, j'écris beaucoup des personnages comme ça, puis...
Il fallait que ce soit en tension permanente, d'où cette caméra à l'épaule?
Aussi, mais je voulais une caméra à l'épaule qui allait pas rajouter une couche de violence, parce que des fois, quand ça bouge beaucoup, on dirait qu'en tant que spectateur, ça peut nous... ça peut être difficile à suivre, ça peut être un peu lourd, en fait. Puis je voulais une caméra à l'épaule très... qui pouvait suivre mes acteurs, Moi, je cherche beaucoup à travailler avec des collaborateurs créatifs qui sont amoureux des acteurs. J'avais besoin, pour le genre de mise en scène que je fais, d'avoir quelqu'un qui avait une épaule comme ça. Mais je voulais une épaule quand même fluide et qui n'allait pas justement trop nous brasser en tant que spectateur, parce que l'action et les personnages nous brassaient, d'après moi, suffisamment là, comme ça.
Faire un premier film aussi tendu, comme ça, violent, etc. Vous avez des références en tête?
Quand j'écris, je ne vois pas de films. J'essaie de pas trop m'influencer avec ça, tout ça. C'est sûr qu'il y a des films qui se sont imprimés en moi, des scènes que j'ai vues, des personnages que j'ai vus qui ont un écho vraiment en moi puis en ce que j'écris. Mais je donne pas de référence à mes équipes, par exemple, quand on travaille. Et moi, en fait, quand je vois des films que j'aime, je vais beaucoup plus me souvenir de l'expérience émotive que j'ai vécue, que des scènes, que de plans, que des fois je me souviens même pas de la fin, je peux même pas raconter un film que j'ai vu parce que je me souviens plus de l'impact qu'il y a eu sur moi. Puis en fait, c'est ce que je veux faire, c'est je veux que le personnage, quand on voit mon film, vive une expérience vraiment unique, une expérience physique, même émotive, intense. Et bien en fait, c'est ça que je retiens des films que je vois.
Femme cinéaste, canadienne, québécoise, ça fait beaucoup de handicap dans le monde actuel.
Oui, bien... Je refuse de croire que d'être une femme c'est un handicap, comme on dit. Et par chez nous, les choses changent, là, ça bouge à ce niveau-là. Au Canada, il y a eu des mesures qui ont été prises pour encourager, par exemple, les producteurs et les productrices à travailler avec des femmes. Dans le court-métrage, c'est fou comment on voit beaucoup de femmes. Quand il y a des remises de prix, c'est autant des femmes que des hommes qui montent sur scène pour aller chercher des prix. Donc ça, ces femmes-là sont tous prêtes à tourner du long, ont des talents de fou, ont des super projets. Et on voit de plus en plus de femmes de mon âge, tout ça, qui tournent. Et je suis très consciente que c'est parce qu'il y a des femmes avant moi qui ont travaillé à ce que ça ne soit plus un problème. Là, je sens que vraiment, là, les choses se passent, les choses changent. Et bientôt, je pense qu'on va être rendu à l'étape de banaliser, en fait, d'être une femme et de faire des films, que ça soit plus spécial, particulier, de réussir à faire des films malgré qu'on soit une femme. Je pense que ça va être la prochaine étape, justement, pour la cause, en fait.
Voilà, à côté de Chien de garde, cette semaine, Laurent, on va parler des chatouilles de oui. Andréa Bescon, Éric Métayer. Odette a 8 ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d'un ami de ses parents qui lui propose de jouer aux chatouilles? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole. Pour raconter son histoire, puisque c'est la sienne, Andréa Bescon a choisi pour un sujet aussi grave, le viol d'une enfant, une forme qui mêle la réalité, des séances psy, la fantaisie, la comédie, la danse, le passé, le présent, un mix de catharsis où l'on passe sans respirer d'un état à un autre dans la tête et la colère de sa protagoniste, colère légitime mais surjouée le plus souvent. De plus, fallait-il autant de pathos de mise en scène sur une situation qui en soi est déjà si lourde et si odieuse, une mise en scène qui ne donne pas de place au spectateur pour la réflexion.
Oui, oui, oui. C'est, ça part d'un spectacle hein, où elle était seule en scène. Oui. Pour
elle jouait tous les personnages.
Elle jouait tous les personnages. Mmh. Et ça, c'était évidemment un vrai pari. Et je crois qu'il était tenu sur scène. J'en suis même certain. Le passage au cinéma, ça devient trop. Il y a trop de personnages, on pourrait dire presque caricaturalement, mais trop. Trop de pathos, trop d'émotions, trop d'artifices dans la réalisation, vous le disiez absolument. Tout ça tue le propos du film parce qu'il faut le dire clairement, il n'y a pas de bons ou de mauvais sujets au cinéma. Il n'y a pas des sujets intéressants ou pas intéressants. Il y a des regards, il y a des façons de les traiter. Et ce sujet-là, qui nous interpelle tous, évidemment, il est, là, en l'occurrence, et sans mauvais jeu de mots, maltraité. C'est-à-dire qu'à force de pathos et à force d'accumuler des choses qui ne nous séduisent pas, on a effectivement un résultat sur l'écran qui, moi, me plonge dans le malaise, pas celui qui raconte l'histoire, mais dans le malaise du spectateur face à un film.
À la différence, par exemple, d'un film comme Festen sur l'inceste, bien qui entendu. Était du grand cinéma, avec des moyens très pauvres.
On a beaucoup d'exemples, bien sûr, de contre-exemples.
Festen mais ressort.
Oui.
Samy, une jeunesse en Laponie de Amanda Kernell. C'est un premier film d'une jeune réalisatrice suédoise. Elle, c'est l'héroïne à 14 ans, une jeune fille d'origine Sami, ce qu'on appelle communément les Lapons. Elle est élève en internat, exposée au racisme des années 30 et à l'humiliation des évaluations ethniques. Elle commence à rêver d'une autre vie pour s'émanciper et affirmer ce qu'elle souhaite devenir. Elle n'a d'autre choix que rompre tous les liens avec sa famille et sa culture. C'est la partie sombre de l'histoire coloniale suédoise, Laurent, et la réalisatrice est elle-même d'origine Sami.
Oui, absolument. Alors ça donne une force évidemment à son propos. Mais quel dommage que ça soit plongé dans un académisme de réalisation absolument scolaire, c'est appliqué, il n'y a aucun vrai moment de cinéma dans cette histoire qui devrait au contraire effectivement porter plus de choses. Alors il reste, et c'est indiscutable, cette actrice qui s'appelle l'aînée Cecilia Sparrock, qui incarne Christine à la perfection, avec ce corps qui ne va pas dans le décor habituel et traditionnel de la Suède, tel qu'on la verrait habituellement. Donc ça, c'est très réussi, mais c'est dommage que le film manque tellement de cinéma.
Christophe Rossignol vous lance une flèche.
Oh, il est dur.
Le terrible Laurent Delmas. Quand vous avez un film, vous savez qui va passer dans l'émission, et vous vous dites, aïe, qu'est-ce qu'il va dire?
En fait, il faut être là, sinon...
Il y a Laurent Delmas et le casque et l'enclume. Le masque et la plume.
Oh non, mais pas fait.
Célébration de Olivier Mérou à l'abri des regards Yves Saint-Laurent. Dessine ses derniers croquis entourés de ceux qui l'ont toujours soutenu, couturière, assistant, modèle. Il s'apprête à quitter un monde dont il est maintenant détaché dans les coulisses. Pierre Berger orchestre une succession de célébrations vouées à transformer l'icône en mythe. Le film démarre sur les longues mains de Saint-Laurent. Elle dessine un croquis, une future robe. Rarement on aura été aussi près de la création. Olivier Mérou est resté 2 ans en immersion dans la maison Saint-Laurent, les dernières du grand couturier entre 98 et 2001. Grande silhouette désarticulée, si fragile et enfermé dans sa mélancolie, un génie au crépuscule.
Oui, c'est ça. On peut se fiche éperdument de la haute couture, hein, je crois qu'on peut le dire. Ouais. Moi, j'ai pas un goût immodéré pour ce secteur-là. Voilà, bon, très bien, oui, absolument. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, il y a d'un côté une sorte de portrait proustien de Yves Cassel, de Yves Saint-Laurent, et puis en face, alors une sorte de petit Kaiser au petit pied qui est Pierre Berger, qui est quand même ahurissant de caporalisme permanent à l'égard de ce qu'a été son amant, de la personne qu'il a aimé, et ce comportement est sidérant, et le film va très très loin parce que la caméra est partout tout le temps, on a l'impression ils ont eu aucun problème. Alors ceci dit, Berger a longtemps interdit le film, hein, il faut quand même le dire,
avec des documents exceptionnels des interviews de Saint-Laurent. Absolument. Par exemple, une bande son très originale, justement. Non, c'est un film,
c'est un très beau documentaire.
Ah oui, c'est vraiment le film le plus intéressant que j'ai vu sur Saint-Laurent, et le plus proche de lui. Carmen et Lola, c'est de Arantxa Echevarria. Dans la communauté gitane en banlieue de Madrid, le destin de deux jeunes femmes, Carmen qui apprend à être bientôt une épouse modèle et Lola qui rêve d'aller à l'université. Carmen comprend vite qu'elle aime Lola et cet amour est vécu comme un déshonneur par la communauté, Laurent.
Mais oui, bon, alors voilà, le sujet il est là, on sent bien que tout ça c'est une sorte de Roméo et Juliette à la fois homosexuel dans le milieu gitan, donc il y a tout pour faire un film incandescent. Et bien là, la réalisatrice ne s'en prend guère le chemin, et les les dernières images, notamment, qui sont dans une sorte de rêve un peu hamiltonien de tout cela, n'est pas à la hauteur du propos principal et du propos initial, surtout.
Et bien sûr, il faut signaler la sortie, parce qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière, de la première solitude de Claire Simon, qui a réussi à saisir les filles et les garçons avant l'âge adulte, qui échangent dans une grande liberté leurs peurs, leur incertitude. Vraiment, c'est une captation très rare de l'adolescence.
Et avec en plus la ressortie de Récréation, l'un de ses documentaires précédents sur une cour d'école qui ressemble à notre société dans son ultra-violence.
Deux festivals leur ont à signaler.
Oui, vous irez à Albi au 22e festival du film francophone du 21 au 26 novembre avec plus de 20 avant-premières, dont celle des nouveaux films de Julie Bertuccelli, Joachim Lafosse ou bien encore Olivier Assayas.
On a le temps, Laurent.
Et sinon, très bien, alors je prends le temps. Les rencontres cinématographiques de Cannes du 19 au 25 novembre. Plus de 100 séances de films, des films en compétition évidemment, et une grosse attention très très intéressante et très intelligente au public scolaire, collégien et lycéen vont notamment découvrir ce qu'est une critique de cinéma. C'est important, Christophe Rossignol.
Ah oui,
bien sûr. Je vous vois très heureux.
L'ont-ils mérité? Oui, ils ont mérité ce beau cadeau que nous leur offrons.
À deux producteurs, on ne pouvait offrir que quatre documentaires sur les salles de cinéma. Des salles de cinéma dans le monde.
Merci.
Avec ce très beau coffret fait par Olga Prudhomme Farge et Joël Farge. Cinéma mythique au pluriel. Chaque salle de cinéma a une histoire à raconter. C'est le sous-titre de ce premier volume. Prague, Richmond, et notamment Punta Arenas au Chili, ce sont les salles visitées. Et il y a également un petit livret où Pierre Jolivet et Philippe Le Guay, entre autres, nous disent tout le rapport qu'ils ont avec la salle de cinéma. Évidemment, c'est édité par Condor.
Merci beaucoup, ça me fait très plaisir, parce que Christian Carion m'en avait parlé.
Il est également dans
de vos auteurs.
Tout à fait, c'est vraiment chouette. Le cinéma, on l'a fait pour la salle.
Voilà. Merci. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Je crois pour votre production, ce beau film sobre et important qui s'appelle Mon cher enfant. Merci Christophe Rossignol et Nord-Ouest et votre coproducteur Pierre Guyat pour ce beau film également. Amanda de Michael Hirst.
Pierre est le producteur.
Voilà, vous êtes plusieurs dans cette belle maison Nord-Ouest. Merci, on se quitte avec vous. On vous laisse les clés du générique, on vous fait signe.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisatrices et des actrices.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Contes a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Rebecca de Nantes s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Hélène Bizio.
Elle est produite et présentée par les très célèbres Christine Masson et Laurent Delmas.
Très méchant.
Et moi, Christophe Rossignol, j'y étais.
Et moi, Nadim Chekroa, j'y étais aussi.